Merci, madame, chers collègues, cara Rossana, chers amis. Je suis désolé de ne pas avoir pu participer à cause justement d'un retour à Genève à la journée inaugurale. Et si je ferai des citations qui ont déjà été faites, vous me couperez. Hein. Quel est le temps de reste que j'ai à disposition ? 20 minutes ? D'accord. Bien. La tâche est facile et en même temps difficile. Les regards croisés ont toujours existé entre Rome et Paris, mais il faut évidemment essayer de faire un bilan, au moins sur la longueur des 150 ans qui sont, me semble-t-il, le sujet de notre rencontre, pour voir s'il y a des chemins possibles pour le siècle qui s'est ouvert. Je commencerai, pour entrer d'emblée dans le sujet, par un auteur qui est inscrit aux célébrations nationales cette année et duquel on parle souvent pour ses œuvres majeures au point de vue philologique, philosophique, religieux, mais pas au point de vue de notre sujet, c'est-à-dire le rapport Rome-Paris, c'est-à-dire Ernest Renan, qui fait un voyage en Italie en 1849. Et c'est par là que je commence, puisque, me semble-t-il, surtout au XIXe siècle, mais ça revient aujourd'hui d'une manière assez frappante, la tentation de l'opposition entre les deux villes est très forte. Et nous le voyons tout de suite, je ne ferai que des brèves citations, puisque Renan est toujours pointu, polémique, donc il est simple de passer par lui pour modéliser ses oppositions. En Italie, un goût charmant pour la vie, douceur vague de vivre. Nous, non. Il nous faut agir. Nous sommes toujours pressés, eux, non. Ils jouissent de ce cours lent et monotone. Nous, il nous faut descendre un bateau à vapeur. Nous n'aimons dans la vie que l'action, eux, ils aiment la vie. Il y a des formules, bien évidemment, mais c'est des formules qui auront un long succès. D'une manière opposée, Renan même fait à l'intérieur de son journal l'opposition ne tient pas seulement un regard, mais il le croise à l'intérieur de son expérience de voyageur. Ce qui manque le plus à l'Italie, c'est le sérieux. Art italien, opéra bouffon. L'italien s'épuise en petite gentillesse, finesse, sons effilés, délicatour de force. Il s'applaudit d'avoir réussi. Pas un opéra sérieux, rien qui élève au ciel et plonge dans l'infini. Etc. C'est une liste extrêmement cruelle et, comme vous le voyez, très pointue. Mais nous arrivons au point essentiel. Si nous ne prenons pas ce point essentiel, après, le discours concernant le XXe siècle devient moins compréhensible. La première définition qu'il donne de Rome, elle a usé ces deux destinées, c'est-à-dire la Rome païenne et la Rome chrétienne. Et devenue capitale d'Italie, elle ne sera plus la capitale de l'esprit moderne. Paris, la nouvelle ville sainte. Or, cette définition, Paris, la nouvelle ville sainte, sera reprise à la lettre, il faudra du reste faire des études spécifiques, par Zola, l'autre qui fait vraiment deux romans pour mettre en comparaison les deux villes. En réalité, la série s'appelle Les Trois Villes, Lourdes, Rome, Paris, le voyage de Lourdes à Rome et de Rome à Paris, pour conclure, en effet, que Paris est la nouvelle ville sainte, c'est-à-dire la sainteté du progrès, de l'industrie, de l'égalité, de l'industrie en marche. Est-ce que tout est résolu par ces définitions? Je dirais que non, et là nous avons un élément dont il faut tenir compte pour la survie, pour ainsi dire, du mythe de Rome. C'est le fait que Renan se rendit compte qu'au moment où il dit « Paris sera la nouvelle ville sainte du XXe siècle », évidemment fait un deuil important, pour ses choix et pour ce qu'il a vécu. J'ai vu Rome, la Rome sainte, et je l'ai vue à la veille du jour où elle doit disparaître. Car hélas, la Rome chrétienne ne sera bientôt plus, à son tour, qu'un souvenir. Elle a usé ses deux destinées. Ce n'est plus qu'une ruine sur une ruine. Néanmoins, il dit, il laissait passer l'œuvre de l'humanité, mais il faut permettre les larmes sur ces ruines. Rome a fondé l'empire de la conscience, la monarchie absolue des esprits. Rationnellement, c'est une tyrannie, mais en fait, elle a été acceptée. Alors, déjà chez Renan, avec une espèce de polarisation extrême, il y a en même temps la contemplation d'une nouvelle ville sainte, Paris, mais aussi les larmes, le regret, le deuil sur l'autre capitale, l'autre ville sainte qui est en train de disparaître. Ceci, disons, a été typique. J'aurai des dizaines de citations, mais on pourrait arriver évidemment jusqu'à Gide, Madame Gervaisé, etc. Des rapports, des regards croisés entre France et Italie pour la deuxième partie du XIXe siècle. Les choses changent un petit peu quand les Américains arrivent à Rome, puisque, et surtout Nathaniel Hawthorne et Henry James, ont la conscience qui sort de ce type de polémique que si on veut retrouver des siècles et siècles non corrompus par la modernité, il faut venir à Rome. Et c'est bien sûr les Américains qui le constatent. Donc il suffirait de prendre le fond de marbre de Hawthorne ou toute la série des œuvres italiennes d'Henry James, notamment Daisy Miller, Le dernier de Valéry, etc., pour voir ce constat. Il faut absolument qu'on vienne à Rome, et assez rapidement, avant que la modernité, après la chute de l'Empire des Papes, enfin la chute du royaume de l'Église, conduise Rome à l'état où sont les autres capitales, c'est-à-dire dans l'anonymat de la ville moderne. Rome est encore un lieu sauvegardé, si on veut connaître l'histoire de l'humanité. Le reste, Henry James le dit d'une manière admirable, de Brooklyn à Paris est désormais, et nous en constatons aujourd'hui tous les effets, un lieu complètement identique et anonyme. Et donc je ne ferai qu'une petite citation, Daisy Miller et les autres textes sont bien connus, mais une petite citation des Vacances romaines. C'est une citation du reste qui montre bien l'esprit américain. Quand Zola se rend à Saint-Pierre, il dit que c'est désormais un squelette complètement effondré, hein, comme on visite dans un jardin botanique les dinosaures, le squelette reconstitué des dinosaures. Mais Henry James a une vision un peu différente de Saint-Pierre. C'est-à-dire, même aux yeux du constitutionnel, entre guillemets, profane, c'est-à-dire Henry James même, elle a des avantages que les boulevards, que Piccadilly, que Broadway ne peuvent offrir, et si elle ne proposait pas pour votre usage le terrain le plus majestueux du monde, elle proposerait encore le plus divertissant. Mais ce n'est pas seulement le divertissement ou la majesté, mais c'est surtout je dirais l'aspect rassurant de Rome. L'âme ici s'épand infiniment, mais entièrement à son niveau tout à fait humain. On pourrait faire un long développement peut-être à la fin. Elle s'émerveille à portée de rêve et de l'immensité des ressources personnelles. Et même s'il n'y a plus le paradis, substitue, même s'il manque en beauté céleste, il le compense en certitude et en tangibilité. Voilà un bon esprit américain. Rome est une ville qui peut être parcourue au niveau du rêve humain. Et voilà un bon substitut de certitude et de tangibilité. Et il y a des pages encore plus saisissantes concernant la fausse carême romaine, le faux carême romain et la beauté de son carnaval. Mais je voudrais terminer par une image assez curieuse qui montre bien qu'à la fin du XIXe siècle, on peut encore comparer Rome aux grands empires. Donc, il s'agit d'une description d'une promenade dans la campagne de Rome où il n'y a rien d'autre que la poussière blanche de la route et la solitude de l'air. Donc, je pourrais me prendre pour un Tartare errant aux confins du Céleste Empire. La grande muraille de Chine doit avoir beaucoup de cette robustesse désolée. La couleur des remparts romains est partout belle et leur bigarrure de pierre a été atténuée par le temps et les intempéries ont une douce harmonie que le pinceau ne demande qu'à reproduire. Alors, un Américain qui compare, comme vous le voyez, la grande muraille aux ruines de Rome, et l'avantage est du côté de Rome. Je pourrais multiplier les exemples, mais je viens à un autre élément qui constitue, à mon sens, quelque chose qui a compté pour le mythe de Rome. Encore une fois, je le prends avec des regards croisés, c'est-à-dire un Romain et un Français. On le trouve moins aujourd'hui, mais on l'a eu dans les années 50. C'est ce que j'appellerais avec une formule musicale le basso continuo. Le basso continuo de l'héritage romain. Et ici, je prendais Belli et Berlioz. Impossible de traduire Belli, donc je me permettrai de lire Belli en italien, ou plutôt dans ma modeste prononciation du patois de Rome, et Berlioz en français. Il s'agit exactement du ridicule, mais un ridicule sérieux, profond, de ce qui reste de la liturgie et des litanies. Enfin, le niveau plus bas, mais plus partagé, des croyances chrétiennes. Le sonnet de Belli s'appelle « Les litanies del viatico » et nous verrons que aussi bien chez Belli que chez Berlioz, je les cite parce que le texte de Belli est de 1831 et le voyage en Italie est de Berlioz est 1832, donc ils sont absolument contemporains. Berlioz avait gagné le prix de Rome en 32 et il sera à Rome en 32-33. Il se prépare en lisant un manuscrit trouvé au Mont Posilippe. C'est un immense texte de roman historique en 5 volumes. Et au moment où il est en train de lire ce texte, il se trouve dans la situation exacte que je vous lirai d'abord avec les mots de Belli. Ora proe, soranna, ma chi è l'ammalato? Er sor Marcello? No, er padre, ora proe. No, credo er fratello, ora proe. No, er zio che tien locanda. E questi, ora proe, chi ce li manda? Che nemmeno se cacciano il cappello. On est en présence de mort et il y a des gens qui entrent et ne lèvent même pas leur chapeau. Et en discutant de tout cela, les deux dames continuent leur litanie. Ora proe, c'est-à-dire ora proe, etc., comme dans la liturgie. Bon, tout le sonnet est joué sur cette alternance entre le gossip, comme on dirait aujourd'hui, et la liturgie, mais Berlioz, quand il lève les yeux de son livre, donc de ce manuscrit trouvé au Mont Posilippe, il voit la voix du prêtre avec une sorte de procession qui avance et qui se perd dans le mont où il était avec un décrescendo très important, et il note dans son journal qui est conservé dans son voyage musical en Italie, tiré des mémoires, il dit « conservare dignieri, c'est les paysans, terogamus audinos », et puis la foule s'éloignait, et puis Xanthe Barnaba, Ora pro nobis, etc. Et on a pu montrer que ce passage reste dans l'un des passages de son œuvre musicale. Donc ce basso continuo a été repris d'une certaine manière dans le cinéma italien, je dirais non pas dans la version tragique que Pasolini nous donne quelquefois, mais plutôt dans certains tupoi, dans certains topos aussi, qui sont plutôt du côté Fellini ou du côté, par exemple, la Comare Secca de Bertolucci, qui cite précisément un sonnet de Belli. Tenons ça à l'esprit parce que je vais y revenir à la fin. Face à ce basso continuo, il est évident que le XXe siècle a développé, de l'autre côté, du côté parisien, le mythe opposé. C'est-à-dire Paris, je cite un titre célèbre de Roger Caillois, Paris mid-moderne. C'est-à-dire que Paris développe, et les écrivains sont bien dans la condition de l'exprimer, de le souligner, cette idée de lieu de la concentration du moderne, même plus que Londres. En tout cas, il y a une continuité, je pourrais citer des dizaines d'auteurs, mais une continuité parfaite entre, par exemple, Benjamin, le grand livre sur Paris mid-moderne, et Roger Caillois. Donc il y a cette continuité qui devient de plus en plus évidente au-delà encore des années 50, de sorte que quand Pasolini doit comparer la destinée de Rome face à cet immense mythe qui s'est imposé désormais à l'Europe entière, eh bien, il est obligé de, je le citerai en italien, enfin, chaque auteur dans sa langue, il est obligé de revenir, de contourner le problème avec, je dirais, une intelligence critique remarquable, seulement il n'a pas été suivi, c'est-à-dire, Paris mid-moderne et alors Rome, ce sera la Rome de la negritudine et de la nuova preistoria, avec un geste tiers-mondiste, pour ainsi dire, qui aurait pu susciter toutes sortes de réflexions, mais qui est resté seulement dans les vers de Pier Paolo Pasolini, je cite, la poésie en forme de rose. Roma dietro le spirali del Tevere, biancheggiante città che attende i non nati, forma incerta come un incendio nell'incendio di una nuova preistoria, NP majuscule. Donc c'était vraiment un projet. Cette image de Rome a circulé entre les années 55 et 60. Il ne faut pas oublier, par exemple, au niveau politique, le club de Rome, Pecei, l'attention à l'Amérique latine, avant sa disparition très, très mystérieuse, aussi le projet de Mattei. Il y avait dans l'expression de Pasolini quelque chose qu'on vivait, une hypothèse politique que Pasolini exprime sous cette forme-là, mais qui a existé à Rome dans les années 60, même au niveau de projets politiques. Cette nouvelle préhistoire est doublée, et là nous venons à un autre auteur, je fais toujours la navette entre, si vous voulez, Rome et Paris, notre auteur qui, si Pasolini souhaite une nouvelle préhistoire dans le sens que j'ai dit, c'est-à-dire une ouverture totale au tiers-monde, une Rome tiers-mondiste, eh bien, d'autre part, Marguerite d'Yourcenar lance Rome comme une ville prophétique, je dirais maître de l'avenir même de l'humanité. C'est-à-dire une ville qui est soustraite au présent. On pourrait dire que si Paris reste un mythe moderne, Rome est un mythe prophétique au-delà du moderne et, je dirais, vers un éternel futur. C'est le célèbre discours autobiographique que Dans les mémoires d'Adrien, Adrien tisse lui-même sur son projet propre. Hein, et la formule est célèbre, mais il faut la citer. D'autres Roms viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurai contribué à former. Je me promettais d'éviter à ma Rome ce destin pétrifié d'une Thèbes, d'une Babylone ou d'une Tyre. Elle échapperait à son corps de pierre. Elle se composerait du mot d'État, du mot de citoyenneté, urbi et orbi réellement, hein, de citoyenneté, du mot de république, une plus sûre que l'autre d'immortalité. Au corps physique des nations et des races, aux accidents de la géographie et de l'histoire, aux exigences disparates des dieux ou des ancêtres, nous aurions à jamais superposé, mais sans rien détruire, l'unité d'une conduite humaine, l'empirisme d'une expérience sage. Rome se perpétuerait dans la moindre petite ville où des magistrats s'efforcent de vérifier les poids des marchands, de nettoyer et d'éclairer les rues, d'opposer au désordre, à l'incurie, à la peur, à l'injustice, de réinterpréter raisonnablement les lois. Elle ne périrait qu'avec la dernière cité des hommes. Grand discours utopique de Adrien, mais bien sûr de Marguerite Yourcenar. Je dirais que cette polarisation d'une Rome nouvelle préhistoire et d'une Rome éternelle pour la citoyenneté totale de l'humanité a été certainement ce qui a été de plus fécond pour, d'une certaine manière, je dirais, compenser la perte par rapport à Paris de la modernité. Paris reste un mythe moderne, mais Rome pourrait éventuellement, il faut aller chercher bien sûr dans ces grands auteurs. Je dirais que la suite par rapport aux années que je viens d'évoquer a été une suite plutôt prévisible, si j'ose dire. On retrouve certainement le mythe de Rome chez des grands auteurs, pensons surtout aux poésies romaines de Brodsky, mais c'est toujours la Rome classique qui avance, pas la Rome que nous avons lue chez Pasolini ou chez Marguerite Yourcenar. Ou encore, dans un texte admirable, le texte de Cortázar, Julio Cortázar, qui décrit Rome comme le pérennel retour de cette douceur étrusque, encore avant Rome, hein, une espèce de grande continuité. C'est un texte qui a été traduit, mais partiellement, il faudrait peut-être revenir à un texte qui n'est pas traduit ni en français ni en italien, fort malheureusement, c'est-à-dire Imagen de John Keats. C'est le voyage de John Keats qui désire mourir à Rome et quelqu'un qui l'accompagne. On voit derrière le portrait même de Julio Cortázar et à chaque étape, ils font le bilan des grands genres de la littérature mondiale, l'épique, la lyrique, etc., pour conclure justement à Rome une espèce de compendium de toutes les traditions. Si j'ai polarisé, je viens à la conclusion avec même une suggestion. Je me permets de soulever une suggestion. Il y a eu des auteurs, des grands auteurs, qui ont su trouver quand même une belle conciliation entre les deux villes. Je citerai d'abord, j'imagine qu'il a été cité plusieurs fois, Italo Calvino. Il suffirait de lire Un Eremita à Parigi pour voir ce que la ville a compté pour lui, non seulement la ville, mais je dirais l'expérience de l'Oulipo, par exemple, de Roland Barthes. Il a traduit que non, il a renouvelé en effet même sa poétique personnelle grâce à ce séjour très fécond. Et puis, il y a même la naissance d'une forme nouvelle de roman qui est due à cette liaison profonde. Michel Butor, La Modification. La Modification, un voyage constant Paris, Rome, Rome, Paris, et c'est par là que le nouveau roman commence. Ce qui montre bien que dans certains grands esprits, les deux villes sont vécues comme des villes complémentaires à une condition, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un projet qui les dépasse, un projet global sur l'humanité. Je dirais encore qu'il y a même des compensations réciproques, et pour, à titre de remerciement du côté italien, je dois dire que l'un des plus grands auteurs, compositeurs de musique contemporaine, Giacinto Scelsi, voilà, on est étonné, il n'est jamais représenté en Italie, très peu en France, mais c'est l'une des grandes autorités du XXe siècle en Allemagne, dans les pays du Nord, aux États-Unis, etc. Eh bien, son œuvre et même sa poésie a été publiée en France et pas en Italie, chez Actes Sud. Et c'est grâce à Actes Sud que nous avons aujourd'hui la possibilité d'apprécier, de valoriser ce grand compositeur qui va très bien dans la lignée de Darmstadt, Schoenberg, Darmstadt, Scelsi, et peut-être, nous verrons l'avenir de cela. Voilà, ma petite suggestion est la suivante. Il y a eu, à des époques, des grands écrivains, je dirais tous les 50 ans, des grands écrivains qui ont créé le nœud, un nœud fécond entre Rome et Paris et Paris et Rome. À la fin du 19e, Zola avec les trois villes et notamment Rome et Paris. Un roman touchant même, mélancolique, très beau, deux romans et, qui ont quand même créé une liaison profonde entre les deux villes. Puis nous avons eu Calvino et surtout La Modification, mais je dirais que ce temps présent demande qu'il y ait une proposition, qu'il y ait même une commande. Il faut commander un travail, suggérer un travail à quelques-uns des grands artistes. Je ne fais qu'un exemple, Butor est encore là. Il a fait une magnifique description de San Marco, peut-être la plus belle description. San Marco est le monument le plus décrit de toute l'Europe, plus que Saint-Pierre, etc. Mais le seul qui a vraiment fait une magnifique description de San Marco est Michel Butor. Alors, qu'on pense à lui ou à d'autres, mais c'est le temps de commander à un grand artiste dans les arts de l'écriture ou de la musique aussi. Choisissez un élément de Rome et un élément de Paris que vous aimeriez donner au siècle qui a commencé, comme un élément utopique, comme un élément identitaire, comme un élément d'unité. Au fond, vous savez, dans cette perspective que nous vivons déjà, l'Europe, Rome et Paris sont en réalité le même métro intellectuel, j'oserais dire, et donc il est le temps qu'on sollicite, peut-être même cette association, quelques artistes pour faire ce que Zola, Calvino, Butor ont fait pour les 150 ans et qui nous ont précédés. Voilà, je remercie beaucoup et je m'en pardonne.